Amen. Voilà, merci Claude. Ça fait toujours drôle de revenir ici. Et ce n'est pas tout à fait indifférent d'être là avec des frères et des sœurs bien-aimés, et d'autres qu'on découvre. J'aimerais partager avec vous un texte qu'on va lire dans un moment sur... Voilà, ça va être dans l'épître de Jacques, on le verra. C'est étonnant, c'est la deuxième fois que je prêche sur ce texte dans ma vie, et la première fois c'était à l'église de Villars. Malheureusement, je n'ai pas très bien classé mes prédications, donc je n'ai pas été fichu de retrouver celle que j'avais donnée, je n'ai pas de point de comparaison, mais je ne suis pas sûr que j'aurais donné exactement la même de toute manière. L'été dernier, c'était au mois d'octobre, j'ai pu aller en Israël, accompagner un groupe, et on s'est retrouvé au Mont Carmel. C'est pour ça que j'ai mis cette image avec une référence. Vous aurez reconnu, je crois qu'il n'y a pas le nom de l'homme qui parle là, c'est Élie, le prophète. Et c'est vrai que j'ai pris comme fil conducteur de cet accompagnement d'un groupe en Israël la vie du prophète Élie, et ça m'a beaucoup, beaucoup parlé, beaucoup touché. Alors j'aimerais essayer de vous en redonner quelque chose ce matin. D'abord, j'étais très interpellé parce que vous vous souvenez, l'été dernier a été une période très sèche. Et puis en Israël aussi, il faisait chaud, il n'y avait pas eu de pluie depuis un bon moment. Et puis, ça me travaillait quand même, cette dimension de me dire, est-ce que l'Église pourrait avoir ce mandat de la part de Dieu de prier pour qu'il n'y ait plus de pluie. Et effectivement, si ça se prolongeait comme ça, mais qu'il y ait un message comme celui d'Élie qui accompagne cette prédiction d'une explication par rapport à toute l'idolâtrie ambiante qui régnait alors en Israël, qu'est-ce qui se passerait ? Et si l'Église, à l'inverse, à un moment donné, parce qu'il y a des signes de repentance qui commencent à se manifester, pouvait prier pour la pluie, est-ce qu'il y a encore des prophètes parmi nous ? Quels sont les ministères de prophètes établis par l'Éternel dans notre génération ? Vous voyez, c'était plein de questions comme ça qui venaient dans mon cœur. Je n'ai pas eu vraiment la réponse, mais j'étais remis en question. Aussi par toute la dimension de l'idolâtrie, c'est tellement actuel l'idolâtrie, et j'ai l'impression que plus on avance dans notre société, plus il y a d'idoles qui se manifestent, plus il y a d'idolâtrie. Ce qui semble totalement incohérent avec nos prétentions à dominer, à maîtriser l'avenir de l'humanité avec plein d'instruments qui sont à nos dispositions et de philosophies, mais pourtant je crois que c'est quand même une réalité, en tout cas la parole le montre. Alors au milieu de tout ça, il y a cet homme, Élie, qui est suscité par Dieu, en tout cas, et puis qui va voir Dieu agir d'une manière assez étonnante. On va lire donc, c'est moi qui ai le petit truc là, c'est moi qui ai la pleine puissance, là, tac, et vos cœurs vont être transformés, ce serait magnifique, hein. Alors c'est dans Jacques 5, 3 versets. Je pourrais m'arrêter sur chacun de ces versets. Je vais essayer de vous redonner un petit peu quelques éléments par-ci, par-là. Je vais picorer. Et puis, à vous de comprendre ce que Dieu voudrait éventuellement vous partager ce matin, vous communiquer. Reconnaissez donc vos péchés les uns devant les autres. Et souhaitez-vous du bien les uns aux autres pour que vous soyez guéris. Tout un programme, hein? Qui est mis en articulation avec une dimension de nos vies, de la prière, celle de la prière. C'est peut-être d'ailleurs le plus important qu'on devra souligner ce matin, la prière du juste mise en œuvre a beaucoup de force. Élie était un être humain de la même nature que nous. Il y a toutes sortes de traductions pour ce verset. J'ai cherché parce que ça me semble assez mystérieux. Littéralement, sujet aux mêmes passions que nous. Les traductions diverses dans les Bibles, soumis aux mêmes sentiments et aux mêmes expériences que nous. Un homme tout à fait comme nous, semblable à nous, aux souffrances semblables, sujet aux mêmes infirmités que nous. Intéressant. Donc, en résumé, un homme tout simple, comme vous et moi. Mais qui connaît le Seigneur. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Alors, où je suis ennuyé, c'est que ça fait référence à des épisodes de l'Ancien Testament. Alors, je ne suis pas ennuyé parce qu'il y a des épisodes de l'Ancien Testament, mais idéalement, il faudrait qu'on ait 2 heures ensemble et qu'on lise les chapitres de 1 roi 17 à 19, voire chapitre 20. Mais apparemment, si le sondage était exact tout à l'heure, 99% me connaissent, donc j'imagine que vous avez déjà lu votre Bible une fois, que vous avez osé aller dans l'Ancien Testament, où c'est plein de guerres, de choses épouvantables, c'est des fois très difficile d'y aller. Et pourtant, c'est la parole de Dieu, inspirée par l'Esprit de Dieu, qui a quelque chose à nous enseigner, à nous dire. Mais je garde confiance que vous avez à l'esprit un peu ces épisodes de la vie d'Élie. Je les résumerai très brièvement pour aller à l'essentiel. Alors, j'ai mis un premier point. Il y en aura 3, bon évangélique. J'ai mis pour moi, et la vie d'Élie me touche, dans la mesure où j'ai l'impression que je peux m'identifier à certains éléments, certains aspects de son existence que j'ai pu expérimenter. C'est-à-dire, en très bref, on peut monter des fois sur des hauts sommets extraordinaires. Il semble qu'il y a des visitations de l'esprit inouïes. On sent tellement bien tout près de la plénitude absolue du royaume de Dieu. Et puis, peut-être même assez vite, après un moment d'une telle intensité, pouf, être dans le plus profond de la vallée la plus sombre. Alors voilà, on va aller sur les sommets d'abord. J'ai l'impression quand même que un des sommets de la carrière du ministère d'Élie, c'était ce moment sur le mont Carmel, cette confrontation avec les prophètes de Baal. C'est magnifique quand on est sur le mont Carmel, hein, vous avez l'image là. Il y a la plaine de Megiddo, d'Armageddon derrière. Hein. Oh, j'aurais tellement, hein, on dit des fois, quel est l'épisode de la Bible que vous auriez aimé vivre en direct, hein, si vous avez la possibilité, hein. Hein, celui-là, hein, Jackie, je suis sûr que c'est d'accord avec moi. Hein. Quand il y a ces 400 prophètes de Baal, le dieu de l'orage, qui sont convoqués là, au Mont Carmel, et puis qu'Élie les défie. Et il y a pas mal de témoins qui sont venus, parce qu'il y a eu une sainte convocation. Et tout le monde est là, il va y avoir une confrontation redoutable. Qu'est-ce qui va se passer ? Et puis Élie qui va offrir un taureau, mais d'abord il laisse les prophètes de Baal offrir le leur. Et ils vont faire des incantations au dieu de l'orage pour que le feu descende sur ce taureau, sur l'autel. Et il n'y a rien qui va se passer. Élie va se moquer un peu d'eux, il va être assez ironique. Mais il n'y a rien qui se passe. Et puis quand lui va demander à Dieu, à l'Éternel, au Dieu vivant, de faire en sorte que le feu puisse être allumé sur l'autel, eh bien, il va encore mettre de l'eau sur le taureau, tout autour, etc. Et puis, une prière, et puis, pouf, le feu descend. Impressionnant, impressionnant ce qui s'est passé ce jour-là. Quelque chose d'époustouflant. Et il est dit que, conséquence à cette intervention spectaculaire de Dieu, que quand les Israélites virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu ». Waouh ! On met à mort tous les prophètes de Baal qui étaient présents. Puis c'est pas fini, hein, c'est qu'un petit bout de ce qui se passe. Ensuite, Élie va aller au sommet du Carmel et puis avec son serviteur, il va prier pour que la pluie puisse venir. Et on va voir des nuages s'approcher et finalement la pluie qui va commencer à tomber avec abondance. Élie qui va dire au roi Achab qui a assisté à la scène et, d'aller à Jézréel. Et il ne veut pas que le roi s'embourbe avec son char s'il y a tellement de pluie comme ça. Et voilà que Élie va même accompagner le roi, va le précéder, il va aller à la course, il va prendre des raccourcis. Et le roi va avoir son rôle là-dedans. Et probablement qu'Élie se disait, le réveil a commencé. Le réveil a commencé. C'est fantastique, il faut que j'appuie la démarche maintenant d'Akab qui va certainement dire à Jézabel, cette reine impie qui venait de la région de Tyr et Sidon au Liban, cette reine païenne qui a introduit encore plus d'idolâtrie en Israël. Mais certainement qu'Akab aura été vraiment confondu par ce qu'il aura vu et qu'il va convaincre son épouse de ne pas continuer sur ce chemin-là. Et puis c'est exactement le contraire qui va se produire en fait. Élie va être déconcerté par la passivité d'Akab. Totalement subjugué par la méchanceté de Jézabel qui veut mettre le prophète à mort. Claude, dans sa prière, disait « Seigneur, change nos cœurs de pierre ». Tu n'as pas dit en cœur de chair, mais c'était dans ta pensée, je pense. En tout cas, ce qui peut se passer en nous peut être redoutable et seul le Saint-Esprit peut faire accomplir cette œuvre. Alors voilà, au sommet, et puis des arrois qui peuvent survenir dans notre vie, difficile d'y échapper comme croyant. Ça peut se produire à titre personnel, dans nos couples, dans nos familles, dans nos églises, au sein de nos peuples. Je pense qu'on est tous un peu désorientés par ce qui se passe au sein des nations aujourd'hui. J'entendais le directeur des Nations Unies il y a quelques semaines qui disait qu'il y avait parmi les nations un chaos qu'il n'avait jamais pu connaître, qui était tout à fait stupéfiant. Sous-entendu, on n'a plus la maîtrise vraiment, on fait tout ce qu'on peut, on rame comme des bêtes, mais ça, on a perdu la maîtrise. Voilà le premier point. Ça va, j'ai perdu pas trop de monde. Vous n'êtes pas endormis. Deuxième chose que j'ai mis dans ce chapitre, c'est finalement, ben voilà, c'est surprenant parce que, enfin surprenant, devant cette réaction, cette attitude, ce comportement du roi et de la reine en Israël, Élie doit sauver sa peau. Et il va fuir. Il va fuir dans le désert avec son serviteur. Et j'ai mis le besoin, après un tel désarroi, de pouvoir retrouver une stabilité, de pouvoir être encouragé, rejoint par l'Éternel pour poursuivre son mandat. Son témoignage en Israël. Et Élie va devoir découvrir que le Dieu vivant n'exauce pas toujours nos prières comme on s'y attend. Et il va goûter, ça je vous mets un peu l'eau à la bouche, il va goûter à la grâce de Dieu par des attouchements successifs qui vont lui permettre de sortir de ce sentiment profond d'échec devant lequel il se trouve. Alors il fuit, ça fait une sacrée trotte, hein. Quand on est sur place, depuis le Mont Carmel, il part jusqu'à Beersheba, là il va laisser son serviteur. C'est à Yisraël qui avait une des demeures du roi d'Israël, d'Akab et de Jézabel. Il va partir jusqu'à Beersheba et là il va laisser son serviteur, il va s'enfoncer dans le désert, il va partir jusqu'au mont Horeb. Vous savez que c'est le mont Sinaï, hein, le mont Horeb. C'est, je pense, à vue de nez, c'est 400 kilomètres, hein, qu'il va parcourir. Mais voilà, il sauve sa peau encore une fois. Et là, il est tellement déboussolé qu'il dit, « Seigneur, j'en peux plus, prends ma vie, prends ma vie. » Il demande la mort. Tellement il est découragé, tellement il est abattu. Et puis il s'endort. Et heureusement que Dieu ne répond pas toujours à nos prières. En tout cas, selon ce qu'on aurait exprimé et souhaité. Alors on dit parfois, Dieu dit oui, non ou attend. Alors là, sur ce plan de la mort, Élie va vivre un tas de choses. Hein. On va voir tout à l'heure brièvement. Les anciens avaient l'habitude de dire que tant que Dieu, quand je dis les anciens, j'ai lu c'est des commentaires bibliques du 19e siècle, quelque chose comme ça, que tant que Dieu a une mission pour nous ici-bas, il va nous laisser la vie. Ça, c'est la souveraineté de Dieu, ça me dépasse totalement. Alors Élie voudrait la mort, mais voilà que un ange le rejoint. Messager de l'Éternel, il lui parle, lève-toi, mange. Il lui prépare un gâteau cuit sur des pierres chauffées, c'est magnifique. Il y a une cruche d'eau aussi qui accompagne ce menu. Elle y va manger, puis se recoucher. Et puis l'ange va revenir une deuxième fois. Même scène qui se déroule. Et finalement, il va le toucher et lui dire, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Le chemin est trop long pour toi. C'est intéressant, on peut le comprendre de différentes manières, ce chemin trop long pour lui. Ça peut être purement physique, effectivement. Depuis juste à une journée de marche de Beersheba jusqu'au mont Horeb, ça va être un très, très très long chemin. Mais on peut le comprendre aussi par rapport au cheminement dans son cœur. Il y a certains cheminements, certaines luttes, certains combats que l'on mène, où s'il n'y a pas cette nourriture céleste, s'il n'y a pas cette force qui vient de Dieu, on n'arrive pas à tenir le coup. Personne n'arrive à tenir le coup. Impossible. Impossible. Je vous avoue que j'ai pensé avec ce repas, où je suis sûrement, c'est pas très original, mais quand même au repas de la Sainte Cène, où il y a comme cette présence de Dieu aussi, c'est pas de la magie, mais pour dire pourquoi Jésus a institué la Cène. Où normalement on pourrait être comme renouvelé dans nos forces, dans notre capacité de recevoir l'assurance qu'effectivement, comme on l'a chanté si bien tout à l'heure, avec ce rappel des textes de Romains 8, que rien ne peut nous éloigner de l'amour de Dieu, de sa grâce, de son pardon, de sa miséricorde. Et Élie va s'exécuter, il peut se relever parce que effectivement cette force lui est donnée. Et pendant 40 jours et 40 nuits, il va pouvoir marcher jusqu'au mont Horeb au Sinaï. Et ça, c'est ce qui est illustré ici par un dessin, une bande dessinée. 40 jours et 40 nuits. C'est un chiffre, le chiffre 40. Les chiffres ont parfois des significations profond dans la Bible, c'est la durée d'une génération, 40 ans. Et il y a des épisodes importants de la vie du peuple de Dieu auxquels est reliée cette valeur numérique, 40 ans du peuple hébreu dans le désert. Mais aussi quand il y a eu des manifestations, on peut dire spectaculaires, de la part de Dieu. Et c'est Moïse qui est 40 jours et 40 nuits sur le Sinaï pour recevoir les tables de la loi. Et puis notre ami Élie qui va marcher 40 jours et 40 nuits. Je crois que ce n'est pas tout à fait par hasard qu'il y a cette précision, sans en faire toute une doctrine. Pour moi, je l'ai intégré comme ça à ma compréhension. J'ai l'impression que dans ce moment profond, de profond désarroi, Élie a besoin, je crois qu'il est conduit surnaturellement, il n'a pas forcément la conscience. Apparemment, certains commentateurs disent, mais c'est charnel ce qu'il a fait. Il a eu peur de cette reine après cette manifestation de la puissance de Dieu au Carmel. Pas sûr. Je crois qu'il y a une direction de Dieu dans sa vie. Et c'est comme un retour pour moi aux sources de l'alliance que Dieu a passé avec son peuple. Et je crois qu'on a besoin de temps en temps d'un de ces traitements de racines qui permet à l'Esprit Saint de nous travailler dans la plus profondeur de notre être, parce qu'on en a besoin. Et il y aura besoin comme d'un renouvellement de l'alliance dans la circonstance. Et dans les temps de crise par lesquels nous pouvons passer, combien c'est nécessaire, voire indispensable, d'avoir ces temps où Dieu peut nous mettre à part. Je crois que c'est Osée hein, qui dit « J'ai attiré son cœur au désert pour parler à son cœur ». Il peut le faire pour un peuple, il peut le faire pour un individu. Voilà, et puis le troisième volet, j'ai marqué pour moi, Élie va devoir expérimenter la nécessité de lâcher prise. Quand on est dans la confusion, quand on se rend compte qu'on a essayé tout ce qui, humainement parlant, nous semblait correct, adéquat, on a semblé qu'on a obéi, et puis que les choses, malgré tout, se mettent de travers, continuent de se mettre de travers, qu'on est déboussolé, ben, il faut que Dieu, lui, fasse la différence. Parce que sinon, on va le faire à la force du poignet, on va agir par la chair, et puis on va s'épuiser. Et c'est cette intervention décisive de Dieu qui va être extraordinaire. Et là, je crois qu'il y aura un immense cadeau pour Élie dans cette partie. Il va découvrir que Dieu se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut le faire par le feu qui descend du ciel. Ça, c'est intéressant, non? Sur tous nos ennemis. Ça pourrait faire descendre le feu du ciel, hein, peut-être même... sur ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Hein. Ça peut arriver dans l'Église. Oh Seigneur, vite fait, bien fait. C'était la tentation des disciples à un moment donné, hein, quand ils sont avec Jésus en Samarie, puis qu'il y a de la résistance. Ils essayent de parler de Jésus, etc., de témoigner, et puis on ne veut rien savoir. Seigneur, veux-tu qu'on fasse descendre le feu du ciel sur ces Samaritains impies? Oh, Seigneur dira, hein, oui, vous ne savez pas de quelle puissance vous êtes animé, mais attendez les amis, la puissance du Saint-Esprit c'est autre chose, vous n'avez pas compris. Alors Élie est surpris parce que, dans le fond, effectivement, il y a une manifestation de ce type au Sinaï et Élie doit se réfugier dans la grotte et puis après il peut en sortir. Et puis c'est le doux murmure de Dieu qui va intervenir. Et qui va faire la décision. C'est magnifique, la souveraineté de Dieu dans le cadre de la révélation qu'il peut nous accorder. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il nous connaît, il sait ce qui est nécessaire, pleinement suffisant. Sommes-nous à l'écoute? Sommes-nous conscients de son intervention? Est-ce qu'on la veut vraiment? Ou bien est-ce que c'est plutôt, on y va avec, voilà, avec les moyens du bord? Et Dieu lui parle. Dieu va l'affermir d'une manière incroyable. Il va lui redonner de l'espérance. Il va lui permettre de goûter à des ressources insoupçonnées. Il va renouveler son mandat. Il va le conduire. Il va lui donner des directives. Il devra notamment aller oindre, on peut dire, son successeur, Élisée. Successeur d'ailleurs avec lequel il va cheminer un bout, quelques années, probablement. Il va lui donner aussi comme indication qu'il y a en Israël, alors que Élie se sent désespérément seul au milieu d'un peuple qui est devenu païen, eh bien il y en a 7000, probablement un chiffre, 7 puissance 1000. Dieu voit dans les cœurs, il sait qu'il y en a qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal malgré les impressions. Et ça me parle aussi par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui dans notre société. On a l'impression peut-être qu'il y a de plus en plus de païens et que si les gens font une recherche spirituelle, c'est tout dans le nouvel âge. Mais je crois que le Seigneur connaît encore un certain nombre de personnes, même dans le pays de Vaud, qui sont en recherche et dont le cœur est sensible à l'action du Saint-Esprit. Ils ne viennent pas forcément dans nos communautés. Mais le Seigneur se réserve à chaque époque, à chaque génération, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes qui vont pouvoir entrer dans le royaume, dans la plénitude du royaume un jour. En tout cas, Élie peut repartir, je crois, fortifié, parce qu'il y a eu cet attouchement de la grâce de Dieu sur lui. Je pense bien que nous avons certainement la possibilité aussi d'être au bénéfice de ces manifestations de la grâce de Dieu dans des moments de douleur, de désarroi. J'ai pu l'expérimenter à plusieurs reprises dans ma vie, en tout cas, combien j'ai remercié Dieu pour sa fidélité, pour sa bienveillance. Où tout d'un coup, on est complètement à plat, il n'y a plus d'espoir au plan humain, et puis il y a une visitation du Seigneur qui fait la différence. Ce n'est pas magique, on ne peut pas juste faire des copier-coller. C'est un chemin de foi, d'obéissance, de confiance dans ce que Dieu est. Probablement que c'est ce qui m'a le plus parlé dans ces réflexions que j'ai eues sur Élie et qui sont toujours en route. Je me souviens du temps de ma conversion, il y a 45 ans en arrière, enfin ma conversion, quand Dieu m'a fait grâce en se révélant à moi. Il y avait les paroles de Billy Graham qui disaient « Si Dieu ne juge pas cette génération, il disait ça à l'époque, il devra demander pardon à Sodome et Gomorre. » Je pense qu'il s'est un peu planté quand même, notre frère Billy. Mais parce qu'entre il y a 45 ans en arrière et aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'était rien du tout il y a 45 ans en arrière, la situation de la société. Et le point qui m'a le plus touché, qui a certainement dû interpeller Élie dans tout cela, c'est la miséricorde et la compassion de Dieu, qui est tout à fait exceptionnelle. Moi, j'étais baba devant cette dimension. Parce que, dans le fond, Akab aurait dû être foudroyé en même temps que les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Il était devenu tellement idolâtre. Introduit des cultes totalement étrangers en Israël, un peu comme Salomon l'avait fait. Et d'ailleurs, la conséquence du péché de Salomon a été le fait que le royaume d'Israël s'est déchiré. Et que c'est des tribus du nord dans lesquelles notre ami Élie a été prophète avec Élisée aussi, eh bien, vont devoir faire tout un cheminement. Et Élie est certainement désabusé parce que Akab et Jézabel elle-même bénéficient encore d'années de vie. Si j'avais été Dieu, je n'aurais pas fait comme ça, en tout cas. Mais Élie va, et on n'a pas le temps de voir ça, lisez ces chapitres, va découvrir comment se manifeste la miséricorde, la grâce de Dieu. Ça nous dépasse totalement. Et puis, même après l'épisode de la vigne de Naboth, où Akab a été épouvantable, abominable, il fait mine de se repentir un petit bout et Dieu lui accorde encore un peu de grâce. Ça me dépasse totalement. Mais en même temps, c'est espérance pour nous, pour nos familles, là où il y a des résistances, des cœurs endurcis, dans une société au sein de laquelle il semble qu'il n'y a plus vraiment la faim et la soif de chercher Dieu, d'obéir à Dieu. Mais je crois que Dieu, au travers de tout cela, me semblait me dire, en tout cas pour moi, continue de rester dans l'espérance, continue d'essayer d'être témoin. Sois fidèle avec tes dons dans ce que je te demande. Et puis, tu verras du fruit, tu verras, aie confiance. Et puis ça, voilà, c'est un petit peu mon dopage autorisé, en tout cas. Ça me renouvelle, ça me fait plaisir. Et je trouve que c'est réjouissant. Alors voilà, on a besoin de bénéficier d'onctions qui peuvent nous rafraîchir, qui incluent aussi ces révélations de la bienveillance de Dieu, de sa fidélité pour nous, envers les nations, envers et contre tout. Puis peut-être de réaliser dans certains domaines qu'on va être exaucé bien au-delà de tout ce qu'on peut penser et imaginer. C'est biblique, ça. Et pour Élie, c'est incroyable. Il demande la mort et puis vous savez qu'il va être enlevé, il ne va pas passer par la mort. Surprise totale. C'est juste fantastique. Puis Élisée, qui va assister à cela, qui va dire, mais j'aimerais avoir la double onction qui me sera nécessaire pour continuer ton ministère. Oui, d'accord, si tu me vois quand je suis enlevé. Ouais. Et il l'a vu, et voilà. Et puis d'ailleurs, c'est intéressant parce que Élie et Élisée ont franchi le Jourdain dans l'autre sens. Et puis, voilà, Élisée a pu revenir, a pu franchir le Jourdain, un peu comme Josué l'avait fait à Jéricho, pour entrer dans une dynamique de conquête de nouveau des cœurs. Pas du terrain, là, mais des cœurs, ou du terrain des cœurs. Donc cet épisode, ces épisodes, finalement, avec le recul, on se dit, c'est exceptionnel, en intensité spirituelle. Le Seigneur a encore certainement beaucoup de choses à nous faire découvrir. Pas juste dire « Seigneur, reviens vite, il y a tellement de méchants et de méchanceté autour de nous. » Alors je crois qu'il y a encore beaucoup, de surprises avant le retour du Seigneur. Qu'il vient bientôt. Mais en attendant, il veut nous équiper, il veut nous mandater pour être ses témoins. Alors je termine. Claude, et tu es extraordinaire, il ne m'a pas dit combien de temps j'avais. C'est très rare ça qu'un président ne vous dise pas. Écoute, il y a 15 minutes ou 20 minutes ou 25 minutes, le culte est très chargé, il y a beaucoup d'annonces. Voilà. Mais je termine. Encore une petite demi-heure de conclusion, ça va. On en a besoin, c'est bien. Alors voilà, il va trouver l'homme qui lui succéderait, là aussi. Je reviendrai bien une fois pour le deuxième message, peut-être sur Élisée, mais... Ouais. Non, je dis plus rien, je dis rien sur Élisée, pas sinon ça va. Voilà, je reviens sur cette expression, la prière du juste. Hein, le juste, c'est pas celui qui est parfait, on est d'accord. C'est celui qui est conscient qu'il est un misérable pécheur qui a besoin de la grâce de Dieu. Hein. Il est justifié par la foi seule, parce que Jésus a accompli une œuvre extraordinaire. Voilà, la prière du juste, mise en œuvre, a beaucoup de force. J'ai trouvé ce commentaire intéressant. Dans ce texte, Jacques ne s'intéresse ni au don prophétique exceptionnel d'Élie, ni à sa place unique dans l'histoire, mais au fait que la prière de cet homme, qui fut un homme de la même nature que nous, avait une grande puissance dans ses effets. C'est intéressant. Parce qu'honnêtement, moi j'aurais plutôt envie de m'intéresser à l'aspect spectaculaire d'Élie. Non, mais voilà, Dieu nous a confié par la prière une dimension qui est juste extraordinaire. Et il y en a un qui a la trouille de ça, c'est le diable. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est difficile de prier, hein ? Parce que chaque fois que vous voulez prier, oh, que de lutte, de combat, hein ? Vous avez expérimenté ça un peu ? Et comment nous on prie en Occident, on n'est pas terrible. Hein. J'étais en Afrique, en Tchad, au mois de novembre, hein. À N'Djamena, je n'emmenais pas l'argent, hein, les Africains. Allez frère, apporte-nous tout ce que tu as mis sur ton cœur. Moi je disais, mais j'apprends déjà tellement de vous, je ne sais pas ce que je pourrais vous apporter. Mais... Mais voilà, elle a beaucoup de force. Et je crois qu'à travers cette manière de voir les choses, Jacques voulait certainement transmettre à ses lecteurs, qui par ailleurs étaient aussi dans des grandes luttes, dans des grands combats, relisez toute l'épître de Jacques. Ça n'est pas tout seul. Ben, il voulait les encourager, il leur dit, mais les amis, vous avez une arme puissante en main par rapport aux luttes, aux combats dans lesquels vous êtes engagés. Et voilà une des clés, bien sûr. Il pria avec insistance. Ça souligne l'intensité d'une action. On ne peut pas toujours éviter les épreuves, les désillusions sur notre route. Mais voilà, il y a une clé, il y a une ressource. On peut présenter tout cela au Seigneur dans la fermeté, dans la persévérance. Et là, puisqu'on est dans cette période qui nous approche, ce temps du carême, ce temps où on va s'approcher de la passion de Jésus. J'avais ce texte cette semaine sur ma route. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme, littéralement la chair, est faible. Peut-être qu'il faut en être conscient pour pouvoir aussi être visité par l'Esprit de Dieu, pour peut-être nous humilier, demander pardon à Dieu d'avoir une vie de prière qui est tellement faible, qui manque tellement de foi. Pas pour vivre dans la fausse culpabilité et faire le jeu du diable, mais pour être honnête avec Dieu, avec nous-mêmes. Et je pense qu'il peut y avoir un déclic et peut-être que dans ce temps, il ira à la Sainte-Seine ou bien Claude ira à la Sainte-Seine ou bien j'ai vu, il me semble, oui, d'accord, ma femme me dit que je suis aveugle, souvent elle avait raison. Cécile, me semble, voilà. Mais peut-être que dans ces moments où on peut faire silence devant Dieu, je vous propose de faire silence au moment de mon Dieu, devant Dieu, et puis j'aimerais juste prier. Merci Père pour ta parole extraordinaire, qu'elle soit cette parole écrite qui est mise à nos dispositions, inspirée par le Saint-Esprit. Qu'elle soit cette parole chère, venue à travers Jésus-Christ parmi nous. C'est un cadeau, un privilège que tu nous fais. Et j'espère, je prie de tout mon cœur pour mes frères et sœurs ici, que parmi ce que j'ai partagé, surtout à la lecture de ce texte, il y ait peut-être tel élément qui peut parler, qui peut fortifier, qui peut révéler une pensée, qui peut faire une décision dans un cheminement personnel, individuel, communautaire, familial. En tous les cas, je veux et nous voulons nous opposer ensemble ce matin à tout esprit méchant dans les lieux célestes, à tout esprit de confusion, tout esprit de mensonge, à tout esprit d'impureté qui veut souiller nos esprits pour les emmener sur le terrain du monde des ténèbres. Eh bien, nous refusons ces dimensions-là au nom de Jésus. Nous rejetons en particulier tout esprit de découragement, tel celui qui a pu affecter Élie dans son désarroi. Tout esprit d'incrédulité aussi, qui nous empêcherait de voir ton œuvre envers et contre tout. Au contraire, nous invoquons ton Saint-Esprit sur nous pour être renouvelés dans notre espérance, pour que ta grâce se manifeste au milieu de nous. Renouvelle la foi aussi nécessaire, pleinement suffisante, pour avoir confiance que, Seigneur, tu es celui qui est proche de tes bien-aimés. Tu nous encourages à te faire part de nos besoins, quel qu'il soit, par des prières, des supplications, comme Jésus à Gethsémané, des actions de grâce. Tu dis que ta paix qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Alors Seigneur, oui, nous nous approchons de toi et que tu fasses ton œuvre dans nos cœurs, que tu les purifies, Seigneur, par le sang de Jésus, comme on le dit, et que tes pensées, qui ne sont pas nos pensées, puissent émerger, puissent prendre le dessus sur tout aspect charnel de notre existence. Seigneur, on te soumet toutes choses vraiment dans nos vies. Que le nom de Jésus soit honoré, glorifié au milieu de nous. Amen.